La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse. De retour dans la Midinale de Piquesse du 7 novembre 2022 pour la troisième et dernière partie « Tout est pas rien » et l'agenda. Et on va commencer par « Tout est pas rien » aujourd'hui.
Ouais, un petit « Tout est pas rien ». Je voudrais officiellement décerner mon premier bon point, Jacques Faucard, chantre de la France-Afrique, à Jean-Luc Mélenchon. Pour un tweet qui date du 2 novembre, oui je sais, Twitter c'est bientôt fini tout ça. Pour un tweet qui date du 2 novembre et qui montre un billet de banque algérien. C'est les nouveaux billets de banque algériens et qui dit « Ceci est un billet algérien. La langue commune ne l'est plus. Tristesse. » Il faut juste vous dire que c'est un billet de 2000 dinars et en bas c'est écrit « 2000 dinars ». Ok. Alors, comment te dire Jean-Luc ? Déjà, premièrement, il n'y a jamais eu de français sur les billets algériens. Ensuite, la langue des Algériens, ce n'est pas le français. Il y a eu une réponse merveilleuse d'un camarade de militant contre la France-Afrique qui a répondu, et je pense que c'est une très très belle réponse, « Les seules personnes qui sont tristes de ça sont les nostalgiques de l'OAS ». Voilà, bah, je pense que c'est clair.
Ça dit tout.
Faut-il rappeler que l'Algérie est un pays souverain ? Et puis, les camarades de survie du compte Twitter commentent en disant « Fachoda, nous voilà ». Ou comment la nostalgie coloniale et l'impérialisme, dans sa déclinaison linguistique, continuent d'irriguer des pans entiers de la politique française. En fait, c'est un tweet honteux. Mais qui est tout à fait raccord avec ce que Mélenchon passe son temps à dire sur la manière dont il se reconnaît dans l'héritage mitterrandien. Voilà, moi je regrette toujours de ne pas avoir les gens de la France insoumise sous la main pour leur demander s'ils sont d'accord avec ces déclarations-là de Jean-Luc Mélenchon et si quand ils se reconnaissent dans l'héritage mitterrandien, ils se reconnaissent dans ses propos néocoloniaux, s'ils reconnaissent dans l'héritage mitterrandien les 40 ans de règne de Paul Biya, le génocide des Tutsis au Rwanda et tout ce que la politique france-africaine a pu créer comme mort, comme dégueulasserie depuis 40 ans.
Bah, sur ce sujet-là, on peut aussi renvoyer aux propos pendant la campagne de Mélenchon concernant Mayotte, où il associe les questions d'immigration et de délinquance. Et sur ces sujets-là, la France insoumise, ou du moins Mélenchon, pêche cruellement.
Ah ouais.
Alors, c'est pas, bon, il lui est déjà arrivé de faire des tweets qualifiés de « malheureux » pour lui, entre guillemets, où... Certaines fois, il a été défendu par les autres cadres, on va dire. Je parle bien de cadres, parce qu'il y en a finalement de la LFI. Est-ce que là, est-ce qu'il y en a qui ont osé défendre ce tweet, là ? Ou
non.
Là, ils font les morts, là ?
Ouais, non, là, il n'y a pas grand monde qui réagit. Ouais. D'autant que je vous ai lu qu'une partie du tweet, c'est derrière, il accuse Emmanuel Macron et Elisabeth Borne d'avoir échoué en tout et pour tout. Voilà, tout est... Tout est à revoir. Je le redis, hein, il y a souvent des moments comme ça où je me demande s'il ne faut pas réactiver le débat sur l'euthanasie.
Carrément. Il va fort aujourd'hui. Il t'a agacé, Dussert, là, dans le début de l'émission. Quoi d'autre dans ce tout est pas rien ? Je crois qu'Asgard avait aussi un...
Ouais, je ne suis peut-être pas dans la bonne partie, en fait, mais...
C'est pas grave.
Je voulais juste porter à l'attention une chaîne YouTube que j'ai découverte et puis c'est proche des sujets qu'on a évoqués, qui est une chaîne de l'Université Paris 8 et enfin comme ce qu'ils font est devenu relativement déplorable, pour une fois qu'il y a quelque chose qui est pas mal, c'est plutôt réjouissant. Et donc c'est sur donc la chaîne YouTube de Paris 8, il y a un projet qui s'appelle Scène de crime, scène comme la scène parisienne. Où ils font des interviews, donc notamment un de Vanessa Kodachny et un autre de Sarah Massoud, donc qui est la présidente du syndicat de la magistrature. Et donc ils ont deux séries comme ça. Donc là, celle dont j'ai parlé, c'est celle sur les violences policières. Ils en ont une autre que j'ai pas encore eu le temps de regarder, qui est sur les violences faites aux femmes. Et c'est plutôt chouette et instructif. Voilà.
Bien. Moi, j'ai rien dans le tout est pas rien, à part peut-être juste deux choses. On avait commencé à parler de l'Iran. Là, j'ai vu récemment sur le site de Human Watch Right, un truc comme ça.
Human Rights Watch.
Voilà. Qui commence à alerter sur le danger que, qu'encourent tous les arrêtés politiques, étudiants, journalistiques. Enfin, il y en a un paquet là qui ont été arrêtés hein, pendant le, dans le cadre des manifestations. Des arrestations complètement arbitraires, sans, en leur les accusant de tout et de rien. Donc il y en a un paquet qui sont arrêtés. Et alors je ne l'ai pas sous les yeux, c'est dommage, l'article est sur l'autre PC. Et là, il me semble que dans la, les personnalités politiques de l'Iran, ils sont presque 300, c'est un peu comme notre assemblée, mais ça doit être un autre système. Il y en a plus de 200 là, qui viennent d'appeler le gouvernement à mettre en place, à remettre en place les peines capitales. Alors, je suis tellement au taquet, je n'ai pas l'article devant les yeux, je suis désolé, je vous le mettrai dans l'article. Mais en gros, c'est ça, ils appellent le gouvernement à appliquer durement. Alors, c'est la loi du, je vais dire une bêtise, la Tocha, je ne sais pas, je ne sais plus du tout. Mais bref, en gros, c'est ça, c'est que ça appelle à appliquer les peines les plus dures envers ces manifestants.
Alors, on rappelle quand même que la peine de mort est toujours en application en Iran.
Ah bah c'est ce qu'ils risquent en fait. Dans ce qu'ils appellent là, c'est ce qu'ils risquent cruellement quoi. Et là du coup, il y a un paquet de gens qui sont concernés et on n'est pas à l'abri que là, sur déjà les centaines de morts qu'il y a dans la rue, ils en rajoutent un paquet par par la justice quoi en fait, en attaquant par leur loi soi-disant, enfin ça va être ça risque d'être assez violent et il y a beaucoup de monde, donc il y a même, enfin là ça y est, je vois qu'ils arrêtent aussi des personnalités du monde culturel, du monde sportif, on a déjà parlé d'un footballeur dont je ne me rappelle pas le nom non plus, qui était très connu là-bas, qui s'était positionné, à mon avis lui ils ont été le choper aussi. Donc voilà, en Iran, ça pue de plus en plus, ça ne s'arrange pas. Il y a eu des rassemblements ce week-end pour essayer de soutenir la cause iranienne. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à rejoindre ces mouvements.
Et en tout cas, là-bas, le mouvement continue. Hein. J'ai vu qu'il y avait une autre pratique qui était, moi, qui m'a fait plutôt rire, mais par contre, qui est très risquée. Hein. C'est celle d'aller claquer le turban des gens dans la rue, et les gens se filment comme ça en renversant le turban. Enfin, c'était plutôt drôle. Après, c'est particulièrement risqué aussi.
Ah bah oui, non, là, ils risquent cher, quoi. Donc voilà pour la partie iranienne. Donc, c'est pas très précis, encore une fois, désolé. Je vous mettrai les deux liens d'articles que j'ai trouvés ce matin. Et puis, on parlait de France-Afrique. Il y a quand même une guerre et un drame qui dure depuis plus de 2 ans maintenant, je crois. En Éthiopie, hein, qui est opposé le gouvernement éthiopien, contre des indépendantistes ou pas du Tigré, pardon. Et là, pour une fois, après ça a créé plein de déplacements de population, des morts par des milliers. Enfin, on n'en parle pas justement, mais c'est une des plus grosse catastrophe humaine, enfin catastrophe, on en reparlera peut-être comme le Rwanda un jour, quoi, on sait pas. Et donc au Tigré, il luttait contre le gouvernement, essayant de s'en détacher, et en plus, pas de bol pour eux, il y a les Érythréens qui sont juste au-dessus et qui, eux, appuyaient les forces armées du gouvernement. Donc pour l'instant, c'est un cessez-le-feu qui a été signé entre le gouvernement éthiopien et la région du Tigré. Par contre, on ne sait toujours pas comment va réagir l'Érythrée, quoi. Donc, affaire à suivre. Est-ce que c'est un cessez-le-feu qui va se vouloir durable ou pas? En tout cas, on le souhaite parce que je pense que les populations là-bas, je ne sais pas quoi dire, mais à mon avis, c'est pas très beau. Ouais. C'est moche complet. Et ils ont assez souffert comme ça. Et ce serait bien que ça s'arrête. Voilà, pour le tout et pas rien. Autre chose ou agenda?
Agenda.
Agenda. Alors, je vais me coller à l'agenda que nous a préparé Kevin, mais qui a dû nous quitter en urgence pour aller travailler.
Ouais. C'est moche.
C'est moche, ouais, ça arrive.
Toujours des bonnes excuses. Hein.
Alors, je vais rapprocher mon micro de l'écran qui m'a fourni. Alors, pendant qu'on faisait la midinale ce lundi, donc de 12h à 14h, il y avait le... Alors, ça se passait au centre social Horizon, donc juste à côté de nos locaux, à Pont-à-Nézène, à Brest. Dans la salle Atalante, il y avait l'ouverture du restaurant coopératif et éphémère qu'ils appellent Cuisine du Monde 3. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant d'application coopératif et éphémère, donc Cuisine du Monde 3, qui ouvrait ses portes ce lundi et qui propose de découvrir les saveurs du monde sur place ou à emporter. Donc en fait ce sera jusqu'au mois de mars, c'est pour ça qu'on en parle encore, que c'est pas un événement complètement raté, hein, ça va durer et en fait vous pouvez faire des commandes et des réservations et venir retirer tout ça du lundi au jeudi de 12h à 14h. Donc voilà, ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au mois de mars. Les réservations peuvent se faire par téléphone de 10h à 19h au 07 85 69 84 18. Et le menu de la semaine est sur la page Facebook du restaurant qu'on vous mettra en lien, qui s'appelle Cuisine du Monde 3. Voilà, donc à l'espace Léo Lagrange du Centre Horizon. Demain, ce soir, on est encore lundi 7 novembre. Donc ce soir, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc il y a un rassemblement au Capucin. À 18h18 contre le projet de bétonisation et le projet d'aménagement pourri qui va se faire sur le site de la cantine du Moulin Blanc. 18h18, donc ça, le prochain rassemblement au Capucin pour l'ouverture de la COP à Brest. Voilà. On passe au mardi 8 novembre, puisque c'est demain, à 20h. Donc là, c'est un film, ciné-rencontre, Mission I. Itaï, je ne sais pas comment le prononcer, c'est dans le cadre du mois du doc gratuit. Ça, ce sera au Vauban, au 17 avenue Clémenceau, à Brest, toujours. C'est un film sur l'instantané de la vie quotidienne, sociale, historique. Les cinéastes amateurs ont créé des moments inouïs de cinéma. Ces pépites sont mises en orbite par Marie-Elia et Emmanuel Pancalet, la monteuse, pour montrer au reste de l'univers une image sensible et personnelle de la Bretagne et ses habitantes. Voilà, pareil, hein, vous aurez les liens toujours dans notre superbe article de la Midinale à suivre.
Tu parlais, c'est dans le cadre du mois du film documentaire.
Ouais.
Donc le mois du film documentaire, c'est tous les ans, c'est un événement national et ça a lieu au mois de novembre. Et en fait, c'est l'occasion un peu partout d'aller voir du cinéma documentaire gratuitement. Et il faut savoir que sur ce festival national... du mois du film documentaire, la délégation Bretagne est particulièrement active. Ça tient notamment au fait que ça a été longtemps porté et supporté par l'équipe de Douarnenez de Daoula Gabreiz. Et donc vous allez sur mois du film documentaire, vous allez pouvoir choisir la Bretagne. Et normalement, vous avez un programme qui est assez lourd, quoi, aussi bien dans les cinémas que dans les bibliothèques, que dans les centres sociaux. L'idée, c'est aussi d'aller montrer du documentaire un peu partout, et le plus souvent gratuitement, et avec des films, qui sortent de sélection, de comités de sélection, et qui sont carrément bien. Donc, n'hésitez pas. Moi, avec ce truc-là, j'ai découvert plein de films trop bien, quoi. Et le documentaire, c'est chouette. Enfin, le film documentaire, c'est vraiment très bien.
Ah oui, c'est beaucoup mieux qu'une comédie foireuse. Hein, d'accord.
sur le site de la bibliothèque de Brest, normalement, vous devriez avoir la programmation sur l'ensemble des bibliothèques et dans les centres sociaux.
Ok, merci Steph pour ces précisions que je n'avais point. Est-ce que vous avez autre chose, vous, pour le mardi?
Non.
Et alors, on passe au mercredi. Alors, mercredi... Ça se passera au Café de la Plage à partir de 19h. Donc, qu'est-ce qui se passe au... Qu'est-ce qu'on annonce quand il y a des trucs au Café de la Plage? Des concerts. Ouais. Donc là, ce sera un concert. Il y aura Mess, c'est du street punk du Mexique. Et il y aura Grunt, c'est du HEC. Ah, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. HXC. Ils viennent de Rennes. Voilà. Merci Kevin, la prochaine fois, de me mettre des styles musicaux que je comprends. C'est à prix libre, bien sûr, avec une précision. Merci d'être généreux pour défrayer correctement les groupes. Donc ce sera au Café de la Plage. C'est où le Café de la Plage? C'est place... j'ai oublié. Ça fait longtemps que j'y vais plus. Place Guérin, au 32 rue Massillon, à Brest. Oh là là, on oublie tout aujourd'hui. Et pendant le concert, un peu plus tard, à 20h30, il y aura la présentation d'un ouvrage qui s'appelle « L'ivresse des communards ». La présentation sera faite par son auteur, Mathieu Léonard, historien et vigneron. Ça sera entrée libre, ça se passe à la salle publique de l'école Guérin, toujours place Guérin, donc il y aura plein de choses à la place Guérin demain. Qu'est-ce qu'on peut dire que sur cet événement de cette présentation? La présentation du livre public, elle va s'appuyer sur une projection sur écran d'illustration, avec des gravures, des tableaux, des caricatures de presse, des affiches, des iconographies d'ouvrages hygiénistes, etc. Des illustrations de la période 1870 à 1914, qui permettent d'aborder l'histoire des représentations des classes populaires et de leur rapport à l'alcool. Donc c'est une soirée organisée par la librairie Bouquinerie La Lecture pour tous et le PL Guérin. Donc ça, mercredi. Jeudi, on va l'annoncer quand même, il y a une journée de rassemblement, il paraît que c'est grève nationale au sein de la CGT et peut-être d'autres syndicats qui se sont rajoutés, toujours pour l'augmentation des salaires, des minima sociaux, contre la vie chère et tout. Donc ça c'est la prochaine messe syndicale. Allez grossir les rangs, hein, ça mange pas de pain, hein, on va continuer. Hein, je pense que d'ailleurs dans ce cadre-là, je peux annoncer, moi mardi, je l'avais pas fait, il y a l'AG de lutte de Brest qui se réunit mardi. C'est toujours, il me semble, la fac Ségalin, amphithéâtre 1 ou 2, ou peut-être une autre salle, hein, vous verrez bien en rentrant... à la fac, et normalement, ça c'est, je vais peut-être dire une bêtise, normalement c'est 18h, 18h30, prévoyez peut-être 18h, on vous remettra l'heure exacte, pareil, dans le... C'est une information tout à fait précise. J'ai rien après le jeudi, j'ai rien le vendredi. Moi je passe au samedi direct, ça vous va? Alors le samedi, c'est l'agenda culturel et militant, on a encore un concert. Et comme on aime bien le quartier de Pantanézen, ce ne sera pas à Pantanézen pour une fois. Ce sera dans un autre espace, ce sera à Léo Ferré, à la maison de quartier de Bellevue, donc 1 rue de Quercy, hein, au bus patinoire. Et le concert, là, ce sera avec VCNCS, du punk hardcore, et Cold Oi du post-punk hardcore, ainsi que les Toxic Rites anarcho-punk. Ça c'est un groupe qu'on a découvert récemment et qui envoie pas mal, franchement. Les Toxic Rites, belle découverte de cette année, quoi. Donc ça c'est à 5€, c'est pas prix libre, bon, ça reste quand même, c'est que 5€ pour 3 groupes, j'ai envie de dire, à l'espace Léo Ferré, où généralement les concerts sont toujours assez ça va, quoi, ça envoie. De quoi s'amuser, c'est juste pour en revenir, c'est un peu relou quoi, quand tu habites Frive Gauche. voilà pour l'agenda culturel et militant de la semaine. Qu'est-ce que j'oublie? Mais oui, ce samedi, le samedi aussi, 12 novembre, la campagne pour l'exigence du transport gratuit sur Brest Métropole continue et se poursuit. Et il y aura une nouvelle action de tractage qui va se faire samedi après-midi. Le rendez-vous est fixé à 14h à la place Guérin. Et de là, vous aurez les informations sur comment va se dérouler ce tractage. Voilà. Donc là, on est tout à fait parfait. Il ne nous reste plus qu'à parler vite fait de l'agenda de la radio. Comme d'hab, vous pourrez réécouter cette midinale que nous allons corriger au mieux avec les petits bugs qu'on a eu techniques de la journée mercredi à partir de 8h du matin. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Oui, c'est là que je suis prêt, évidemment. Il me semble, on est le combien? On est le 7 novembre. Il n'y aurait pas une émission demain préparée par Nico qui passe demain, qu'il a enregistré. Alors, excusez-nous, où est-ce que je peux récupérer ça? Ah, on est tout à fait prêt. Bon, je reviendrai sur l'émission de Nico dès que j'ai...
Je regarde les points.
Ouais, je te remercie. On aura un Vibes and Culture mercredi. On en a reçu un, c'est Michel Farry qui l'a réalisé. Donc vous pourrez lui réécouter cette émission mercredi à partir de 20h. Qu'est-ce qu'on a d'autre jeudi? L'Estanco va revenir. C'est vrai que pour l'instant, on n'en fait un peu que tous les 15 jours, alors que c'est prévu d'en faire toutes les semaines. Là, je pense que jusqu'aux vacances de Noël, on va pouvoir en faire toutes les semaines. Donc, l'Estanco, nouvel horaire hein, cette année, c'est le jeudi à 18h30. Donc là, il y aura cette semaine. Et voilà, en gros, pour, et les syndications habituelles, Rock à la Casbah, l'envolée le dimanche à 11h.
Non, c'était pour mardi, c'était pas l'émission de Nico, c'est prendre le pouvoir.
Ah, c'en est encore une autre.
Ouais.
Mais c'est aussi une émission de Nico, ça, il me semble.
Non, non, ça, c'était...
Du tout.
C'était 4.
D'accord. Désolé, alors. C'était une émission proposée par 4 qui a été envoyée, je crois, par des amis à elle de Paris.
De Réseau Salaria, non
autour de Réseau Salaria, ouais, qu'elle a rencontré par là. Voilà, bah, j'ai aussi la grille, maintenant, enfin, sous les yeux. Mardi 8, prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'on oublie? La rediff de lundi soir à 18h le mercredi. Voilà. Le Mayday le vendredi à partir de 17h. C'est ça, c'est une émission de Radio Canu. Et bah, y a une école volante aussi apparemment ce vendredi qui est notée dans la grille, mais je ne suis pas sûr.
C'est une rediffusion, je pense.
Ce sera plutôt une rediffusion, à mon avis, ouais. D'où l'importance, on en parlait en réunion, vous aurez bientôt le compte-rendu de la dernière réunion Piquet en ligne, puisqu'on est totalement transparent, de l'utilité de cette grille interne entre nous pour ne pas dire des bêtises pendant la midinale. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour.
Allez, on est bien.
Hein, alors, on va conclure, donc cette midinale dure un peu, mais on aime bien, on va se faire plaisir. Nous, on va lâcher l'antenne, on va vous dire au revoir. Et on vous en parlait en début d'émission sur le sujet du rassemblement à la cantine du Relais Kerhuon. Donc, on avait fait différentes prises de son. Là, on va vous en proposer pour finir cette émission une deuxième où il y a quasiment l'intégralité des prises de parole qui ont été faites. Alors, contrairement à ce que dit Kevin, où quand la personne lance le décompte de 1 à 22, là, on entend que ça galère et tout. Ça galérait tellement que ça m'a saoulé au montage. J'ai essayé d'en faire un truc plus joli. Donc voilà, ça commencera un peu par ça. Et puis, ça finira par les deux prises de parole des deux collectifs et assos qui étaient là à ce moment-là. Sur ce, salut Steph.
Salut.
Salut.
Salut
à
Asia.
Bientôt.
À bientôt et à la semaine prochaine, même heure, 12h pour la prochaine midinale. Ciao.
Salut.
Nous sommes en 2000. Pourquoi pas? Après 2000, on va demander aux petits-enfants de Thérèse, est-ce qu'il y a un qui sait compter? Il faut compter jusqu'à 22. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
22 comme 2000. 22. 22 comme les 22 pins de Monterrey à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Vous voyez devant nous les bureaux des services administratifs. Hein, on reconnaît l'architecture de la poudrerie d'État. On pense aussi à la manufacture de tabac de Morlaix. Donc il reste aujourd'hui les bureaux des services administratifs et il reste aussi la maison du directeur. On la devine. Cette maison, aujourd'hui, elle est la propriété d'un monsieur dont je tairai le nom. C'est grâce à ce monsieur que nous sommes encore en train de défendre ces 7000 mètres carrés. C'est lui qui s'est opposé le premier. Et là, nous, on s'en veut, nous, les terreurs. On n'a pas vu le coup arriver. C'est lui qui s'est donc exposé le premier et qui est parti, alors là, un recours gracieux, jusqu'à là, ça va encore, à trouver une faille qui fasse arrêter. Jusqu'à là, ça va encore, le recours gracieux. Et on connaît après tous les autres recours, recours et appels. Et on va jusqu'au, n'est-ce pas, Jean-Pierre, des Perles de Saint-Marc. On va jusqu'au Conseil d'État, jusqu'en revision. C'est ce qu'a fait Jalil. Et je pense qu'il a... Vous savez ce qu'on a à faire à Jalil. Je vais demander à Jean-Pierre et Bénédicte de nous rejoindre. Donc Jean-Pierre pour les amoureuses et amoureux donc de la rade de Brest. Et puis donc Bénédicte pour au pied du mur. Jean-Pierre.
Au nom des amoureuses et des amoureux de la rade de Brest, je vous dis bonjour, bienvenue et bravo d'être ici, aujourd'hui, si nombreux, sur le site de la cantine du Moulin Blanc. Lundi 24 octobre, c'est-à-dire il y a moins de 2 semaines, le bosquet de pins qui se dressait devant nous a été abattu, massacré, en une seule journée. Nous avons subi un choc violent. Après la sidération est venue la tristesse. Certains ont éprouvé de la colère. C'était un havre de fraîcheur dans le paysage, une rupture d'urbanisation dans notre métropole, considérée par beaucoup comme par trop minérale. C'était un espace de respiration. C'était un amer à la silhouette fière, élégante et remarquable, devenue familière pour tous les usagers du plan d'eau et les promeneurs de la corniche. Il y a peu, ce site était encore un bien commun. Il aurait pu figurer l'amorce d'un aménagement doux du front de mer, trait d'union entre les vallées du Costour et du Stangalard, face à la plage, pour le bénéfice de tous. Mais certains en auront décidé autrement dans leur entre-soi. L'endroit sera artificialisé, bétonné. Le bois de pin va laisser place à un immeuble réservé à quelques privilégiés. Nous, Brestois, nous, Kéror, voulons habiter une ville qui nous ressemble. Et on nous propose la bolle, les pins, sans les pins. Qu'allons-nous faire de notre tristesse et de notre colère ? D'aucuns nous disent que notre action est vaine et dérisoire, que l'affaire est entendue depuis belle lurette, que nous avons au moins 10 ans de retard. À cela, nous disons avec Brecht que celui qui combat peut perdre, que celui qui ne combat pas a déjà perdu. Certes, nous avons perdu la bataille des arbres, mais le combat se poursuit. Ce combat est un devoir qui nous échoit à tous, comme il est écrit dans la charte de l'environnement incluse dans notre Constitution. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. C'est à ce titre que nous sommes rassemblés ici, aujourd'hui, car visiblement, cette injonction de préservation et d'amélioration de l'environnement n'a pas été respectée. Plus jamais ça. Comment en est-on arrivé là ? Comment un projet aussi impopulaire a-t-il pu aboutir ? Ce n'est pas nous qui avons des années de retard, ce sont des décideurs restés enferrés dans des schémas de pratiques et de passés anciennes. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas qu'on leur demande des comptes, ils tombent des nues, ils n'ont pas vu que le monde changeait, que la société changeait, que nous sommes en 2022 en pleine crise climatique. Nous ne dénonçons pas des individus, nous dénonçons un système de gouvernance obsolète et une incapacité à changer de paradigme. Ce site a longtemps été martyrisé par l'industrie et il en garde des stigmates. Il est pollué, il a été rendu à la nature, mais la démesure des hommes n'a pas laissé le temps à celle-ci d'effectuer son travail de résilience. On ne lui a laissé aucune chance. Souvenons-nous de la chanson de Bob Dylan, « The times are changing », »,« Les temps sont en train de changer », où il file la métaphore ô combien pertinente sur l'eau qui monte et qui va tout submerger. Les temps changent en effet. On sait que ce site est d'ores et déjà situé en zone submersible. Et on sait aussi que du fait du dérèglement climatique, le niveau de la mer monte, sans doute, et hélas, inexorablement. Les prévisions du GIEC nous le rappellent d'année en année, à chaque rapport qu'il publie. La probabilité d'une submersion augmente et augmentera de plus en plus. N'y va-t-il pas de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures ? Qu'en est-il du principe de précaution ? Où est le courage politique ? Mais les lignes bougent. Des collectifs se créent dans la métropole qui se rejoignent pour dénoncer de tels projets aberrants et demander la tenue d'assises de l'urbanisme pour décider ensemble de la ville que nous voulons habiter, tout en préservant le bien commun. La ville de demain passe par une vraie concertation citoyenne préalable. Nous voulons en effet croire en l'intelligence collective. Nous avons notre mot à dire. La cité de demain est l'affaire de tous. La preuve en est apportée ici aujourd'hui par votre présence. Vous, qui venez de partis, de mouvements, d'associations, de collectifs parfois très différents. Vous qui êtes des habitants de la métropole, des usagers du front de mer, émus et choqués par un spectacle de désolation, par un gâchis. À vous tous, nous disons merci d'avoir répondu à notre appel. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce combat citoyen est éminemment transpartisan. Plus jamais ça, plus jamais comme ça. Je passe la parole à Bénédicte du collectif Au pied du mur.
Bonjour à tous, à toutes. Donc je prends la parole au nom du collectif Au pied du mur. Il y a un an et demi, nous avons commencé à nous réunir, collectifs et habitants mobilisés partout sur la métropole contre des projets immobiliers qui détruisent la ville et qui détruisent notre bien commun. Nous avons partagé nos constats. La ville est livrée aux appétits sans scrupules des bétonneurs, des spéculateurs, des ravageurs qui participent à rendre cette planète et notre ville chaque jour moins habitable. Les habitants et les habitantes n'ont pas voix au chapitre. Nous sommes mal informés, nous sommes absents des concertations, nous sommes exclus des décisions. Et la vie non humaine, les arbres, les sols, les animaux sont oubliés. Nos revendications, une ville fabriquée avec et pour nous tous, les arbres compris. Une ville qui préserve la mixité sociale, qui préserve la qualité de nos quartiers, de nos environnements sociaux, naturels, des espaces communs, des possibilités de rencontre, du beau. Une ville qui intègre les enjeux vitaux de l'écologie. Alors aujourd'hui, nous sommes tristes. Tristes de dire adieu à ces 22 arbres abattus sur l'autel du profit privé pour un projet immobilier de luxe. Et nous sommes en colère, plus déterminés que jamais à nous battre pour un changement de modèle en matière d'urbanisme. Partout sur la métropole, la résistance continue, s'intensifie, s'organise. Au Jardin de l'Adoration à Saint-Martin, au Bourg de Saint-Marc, au Vallon du Stangalard, dans le Vallon du Dourvraz, au pied du quartier du Merle-Blanc, à Kerango, et bientôt au Frouvennes, à Plougastel, à Plouzané, à Guipava, où l'artificialisation des terres agricoles et sauvages continue. Ici aussi, à la cantine, notre vigilance est intacte et nous demandons à ce qu'une commission ad hoc composée d'élus et d'habitants soit chargée du suivi et de l'évaluation des travaux, des terrassements et la dépollution du terrain traversé par le Coustour, on a entendu, sont particulièrement sensibles à deux pas de la plage du Moulin Blanc et on ne veut pas qu'ils fassent encore n'importe quoi. Lundi, la métropole ouvre officiellement la COP locale. 15 jours d'événements pour nous mobiliser et pour agir contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Nous l'ouvrons aujourd'hui. Et nous affirmons que pour agir, il faut changer de modèle et de politique en matière d'urbanisme tout de suite, maintenant. C'est cesser la privatisation des biens communs, organiser notre décroissance quantitative pour des projets de qualité, plus modestes, plus respectueux de tous, plus respectueux des vivants. Parier sur notre intelligence collective et la démocratie pour construire des projets réellement participatifs avec des architectes et des entreprises à notre service. Nous ouvrons aujourd'hui la COP locale pour dire « plus jamais ça et plus jamais comme ça ».
Et nous nous retrouverons d'ailleurs dès lundi prochain, puisque c'est lundi le lancement de la COP. Donc nous y serons avec les bosquets du Moulin Blanc. Ces bosquets vont accompagner toutes les luttes, pas seulement celle-ci. Donc rendez-vous lundi prochain à 18h18 sur donc Grande Halle des Capucins, sur le marbre des Capucins, là où les délégués syndicaux CGT faisaient se lever la ville de Brest pour toutes les grandes conquêtes sociales. Lundi, 18h18, sur le marbre des Capucins.
La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.